Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'onde curieuse de ce mardi. Ça faisait deux mardis qu'on était en grève, dis donc, aujourd'hui ça change, cette semaine ça sera jeudi. Donc votre magazine d'information qu'on ouvre aujourd'hui par une citation existentialiste de Jean-Paul Sartre sur la liberté.
Ouais, la liberté c'est ce que nous arrivons à faire avec ce que nous avons, ce qu'on nous a fait.
C'est ce que nous arrivons à faire avec ce qu'on nous a fait. Bon, la création artistique comme moyen de liberté, comme moyen d'échapper à toutes les limites du corps, les limites de notre environnement, qu'on soit au dehors ou au dedans d'une prison, les rêves et les idées percent et passent les murs. Nos invités ce midi sont trois femmes pour qui le théâtre est synonyme de liberté.
Oui, Zarina Khan, femme de lettres et de théâtre, philosophe et fondatrice de l'Art Café à Mirabel. Maye Moreno et Natasha Lobve, qui se sont rencontrées dans la prison pour femmes de Santa Marta au Mexique. Non.
Si.
Et qui utilisent le théâtre comme, Maye, un exorcisme pour les idées et les sentiments, un acte qui soulage et qui libère et permet de regarder à l'intérieur.
Alors on est ravis et fiers de vous accueillir ici, mesdames. C'est un entretien qui s'annonce passionnant et que l'on démarre juste après un bref point d'information. Le séisme de la semaine dernière, qui a touché la Turquie et la Syrie, et fait à ce jour 35 000 morts, dont la majorité sont en Turquie, puisque le bilan côté syrien est toujours méconnu, car le président Bachar el-Assad n'a toujours pas pleinement ouvert aux ONG l'accès à la région du Nord-Ouest, qui est fortement touchée, mais considérée rebelle. C'était mon point de contexte.
Dans ce contexte difficile, donc, le Secours populaire d'Aubenas lance un appel aux dons pour soutenir leur action sur place. Ils offrent un soutien technique, la logistique et matériel, en partenariat avec des ONG et associations locales. Donc chaque euro compte. Rendez-vous sur la page don.secourspopulaire.fr.
Et pendant ce temps-là, en France, les médecins généralistes sont en grève à Paris. Ils manifestent aujourd'hui pour dénoncer leurs dures conditions.
La Sécu prévoit un nouveau contrat passant la consultation de 25 à 26,50 euros, ce qui est considéré insuffisant par les syndicats du métier, qui exigent jusqu'à 50 euros. Ils dénoncent également la possibilité de recourir à des paramédicaux, kinés, orthophonistes, etc., sans passer par leur prescription.
Ah ouais, c'est une grève très corporatiste et c'est vrai que ça fait un peu tâche aujourd'hui, alors que, par exemple, les infirmières, les aides-soignants sont toujours payés au lance-pierre et travaillent dans le stress. Mais comme dit un certain adage, c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faudrait se taire.
Ouais. Côté sortie, qu'est-ce qu'on retient cette semaine?
Eh bien, ce soir de 14 février, l'Avène d'Orniac vous invite à une dégustation de vin à 121 mètres sous terre pour échapper aux revendications des médecins, dans une ambiance feutrée au milieu des stalactites et des autres concrétions rocheuses. C'est une échappée hors du temps pour les amoureux ou entre amis. Et ça commence à 18h ce soir. L'entrée coûte 29 euros à l'Avène d'Orniac.
Demain le 15, c'est la MOBA à Bagnols-sur-Cèze qui accueille une soirée de rap et hip-hop québécois. Sur scène, le rappeur montréalais Loud, accompagné de Larry Kidd et de July.
Accroche ta tuque avec la broche, puis va chez ton boutique, Carlis. ça va envoyer. Je pense que ça va être une très bonne soirée pour ceux qui sont plutôt proches de Barjac, Bagnols-sur-Cèze. Rendez-vous à partir de 19h. L'entrée coûte 10 à 15 dollars.
Dollars canadiens. Et ce vendredi 17, c'est le rendez-vous justement au Art Café de Mirabel pour une soirée théâtre au féminin, ouais. Foire à Dentro. Une création donc de Natasha Lobve et Maya Moreno, que nous recevons, et qui invite à choyer la liberté, l'amour et la boussole du cœur. Nos deux invités et Zarina Khan, vous êtes ici pour parler théâtre, liberté, tout ça après.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la
La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Préparame la cena que regreso pronto, c'est un morceau de Calle 13, donc rappeur et musicien et compositeur, auteur, interprète portoricain. Les dernières paroles du dernier couplet, yo soy libre porque desde aquí yo vuelo, solo toca despegarse del suelo. Je suis libre parce que à partir d'ici, je vole, tout ce que ça prend, c'est de se décoller du sol.
Ouais. Liberté, liberté, oui. On est très heureux, encore une fois, de recevoir Zarina Khan, Maye Moreno et Natacha Lobvet aujourd'hui pour nous parler notamment du spectacle Dedans, Dehors qui sera présenté pour la première fois en France ce vendredi 17 à l'Art Café de Mirabel. On va commencer, si vous voulez bien, cet entretien avec vous, Zarina Khan, puisque vous êtes le lien qui nous réunissait ici. Vous êtes, on l'a dit, philosophe, femme de lettres, autrice, une femme engagée aussi, fondatrice en 2000 de l'Art Café de Mirabel. Vous êtes une tisseuse, une métisseuse, métissée, métisseuse, peut-être, je ne sais pas si ce qualificatif vous va.
Fort bien.
Pourquoi présentez-vous ce spectacle vendredi soir à l'Art Café?
Parce que j'ai entendu deux femmes que je ne connaissais pas dire « L'écriture et le théâtre nous ont sauvé la vie ». Il se trouve que c'est mon cas. Il se trouve que depuis le début du monde, j'ai le sentiment que l'art sauve la vie de l'humanité, que l'art nous éloigne de la barbarie, des extrémismes, des intégrismes, des racismes, de tous ces ismes qui nous séparent les uns des autres. L'art nous réunit. Et quand vous dites métisseuse, tisseuse, ça me touche parce que c'est vrai que mon métier, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je construis des passerelles, je construis des ponts, je tisse. Voilà, et mon métier à tisser, c'est le théâtre et c'est l'écriture. Et donc quand Natacha Émaillé frappe à la porte du Art Café, c'est une évidence que je n'ai pas besoin de lire la pièce, de connaître le spectacle. Que ce lieu est fait pour réunir autour de ce grand symbole qu'est l'art, qui est pour moi le fondement de la liberté.
Et comment vous en êtes venu à comprendre ou à adopter cette réalité du théâtre comme libérateur et du théâtre comme créateur de liens ?
Alors vous serez surpris si je vous réponds que c'est à l'école maternelle quand... À 3 ans et demi, j'avais déjà vécu un tel chaos, la lapidation de ma mère, j'étais arrachée à mon père pour des raisons politiques et j'ai failli mourir. Et j'ai vu des gens hurler à la mort parce que mes parents n'étaient pas de la même religion. Vous imaginez, tout ça pour un enfant de 3 ans et demi, c'est beaucoup. Et c'est incompréhensible, ça l'est toujours pour moi, c'est incompréhensible, je ne prends pas... Cette chose-là, je ne l'apprends pas en moi. Donc, voilà. Et à l'école maternelle, ben, on m'a inscrite. Je suis revenue chez mes grands-parents un peu avec tout ça. Je ne parlais plus. J'ai décidé de ne plus parler parce qu'il n'y a plus rien à dire devant l'aberration. Et tout à coup, cette institutrice m'a offert des lettres de l'alphabet. Et là, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. C'était des lettres en bois, vous savez, qu'on pose comme ça, et puis elle disait, ça forme des mots. Et moi, je ne parlais pas le français, mais je voyais ces formes comme ça. Et elle disait, et ça a du sens, Zarina, ça a du sens. Si tu veux dire quelque chose, c'est avec ça. Et là, ma vie a changé. C'est-à-dire que les lettres de l'alphabet, la découverte des mots, le fait qu'on peut faire des phrases pour toucher le cœur de l'autre... et lui dire le plus important, j'ai fait ça toute ma vie, en fait.
Toucher le cœur de l'autre, alors c'est sans doute ce que vous deux, Maillé et Natacha, allez faire vendredi. Maillé Moreno, vous êtes mexicaine, biologiste, vous avez passé 16 ans dans la plus grande prison du Mexique, où vous avez rencontré Natacha Lobvé. Vous êtes sorti il y a très peu de temps de prison, vous êtes sorti en juin et arrivé ici en France depuis 2 mois, c'est ça ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc on est vraiment d'autant plus touché. Et vous, Natacha, vous êtes française, vous avez été emprisonnée pendant 10 ans dans cette prison dont vous êtes sorti en mai 2017. Ce qui vous a rapproché toutes les deux, c'est l'art, le théâtre, puisque vous avez rejoint Natacha, vous avez rejoint la troupe que Maillé avait lancée dans cette prison. Vous avez toutes les deux organisé des ateliers avec les prisonnières, vous avez fait des tournées entre pénitenciers. Est-ce que c'est ça, l'art, l'écriture, le théâtre, est-ce que c'est ça la solution pour survivre en prison ? Qui veut...
Bon, je vais prendre la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais même que c'est le moyen pour survivre en prison et dehors. Je pense que c'était un travail qu'on a fait pendant des années en prison, c'était faire disparaître les murs et faire comprendre aux gens dehors qu'on était les mêmes, on était tous les mêmes, non, dedans et dehors, tous régis par des sentiments et des émotions qui devaient s'exprimer. Donc, effectivement, à travers le théâtre, l'écriture, les arts plastiques, on a rencontré des moyens de s'exprimer, de communiquer entre nous aussi, c'était assez important.
C'est un outil qui vous a permis de créer un sentiment commun en milieu carcéral. Vous avez, ça a œuvré vraiment à rapprocher les personnes autour du projet d'écriture et de jeu.
Bah, Maillet saura en parler mieux que moi de sa faculté de professeur et de travailler avec des gens qui ont des problèmes d'addiction, etc.
Oui, je pense que le théâtre a été pour nous la maison de nos rêves et de nos émotions. Et ça nous a aidé à toucher les autres femmes qui étaient enfermées avec nous et qui avaient besoin de, sans le savoir, avaient besoin de dire, d'exprimer ce qu'ils vivaient, ce qu'ils sentaient. Et ça marchait comme ça. Et ça a été magique pour nous parce que vraiment, ça nous a sauvé la vie et ça nous a évité de tomber dans la dépression ou dans les douleurs. Et ça a été une manière d'embellir notre vie dedans, qui a été, après tout, et plein de beaux choses. Parce que nous avons rencontré là et nous avons rencontré l'amour et la paix et la liberté, dans une certaine manière.
Et vous connaissiez déjà le théâtre avant d'arriver à Santa Marta?
Non, j'ai lissé des pièces. J'étais intéressée, mais non. J'ai découvert le théâtre dedans. Et quand j'ai sorti, ça a été de nouveau une manière de rester debout et de continuer de vivre et de partager.
Oui, parce que c'est ça, c'est surtout ce qui m'a marqué en lisant aussi les fanzines que vous avez créées là-bas avec les femmes prisonnières. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que il y a le dedans, et vous dites que paradoxalement, dans le dedans, vous avez rencontré l'amour, la liberté et l'art, mais après le dedans, il y a le dehors, l'extérieur. Et Natacha, d'ailleurs, dans l'un des articles du fanzine, vous questionnez le terme de réinsertion. C'est un mot qui semble vous mettre en colère. Et je cite, vous disiez dans une lettre écrite 9 mois après votre libération, « L'objectif de vouloir réinsérer des prisonniers dans la société est un leurre. La société est malade, dénuée d'esprit de poésie et d'empathie. » Alors, quel est ce rapport justement au dehors, ce rapport avec l'insertion, avec la réinsertion?
Je vais me faire la voix de beaucoup de femmes prisonnières qui finalement s'en rendent compte, toutes elles s'en rendent compte de cet fait, de cet état de fait, les hommes aussi d'ailleurs, c'est que on vit dans des sociétés où la violation des droits de l'homme est perpétuelle, omniprésente, omnipotente. Les droits de l'homme sont violés en permanence. Donc on vous met en prison parce que vous avez défraudé les règles, vous avez enfreint la loi, et on prétend, dans les enceintes des prisons, réinsérer des gens dans la même société de laquelle ils proviennent. Donc il est logique qu'on ne va pas transformer... on transformera pas... Il faudrait que pendant que les gens sont en prison, on transforme la société pour que quand ils ressortent, ils rencontrent le paradis, on pourrait dire, entre guillemets.
C'est ce que j'allais dire. C'est la société qui doit être réinsérée.
C'est ça. Et puis, moi, je pars d'un concept, d'une idée qu'en fait, on n'est jamais désinséré de rien. Parce que quand on est en prison, c'est comme si on venait du ciel, des nuages, je ne sais pas. Il faut nous réinsérer. Ça voudrait dire qu'on était désinséré de quelque chose. Non, on passe juste d'un environnement social à un autre. Avant, c'était l'extérieur, après, c'est l'environnement de la prison, et puis ensuite, c'est celui du travail, de l'école, de la famille. On ne fait que transiter dans des environnements différents. On est toujours les mêmes, on existe, on rit, on pleure en prison, on rit beaucoup. On riait tellement parfois qu'on se surprenait, on se disait « faut pas rire, on est en prison, on va se faire disputer ». Alors que bon, c'était justement l'humour et l'art fait partie aussi de ces outils nécessaires à résister, on va dire, à cet endroit. Donc, et puis la réinsertion, effectivement, quand on sort, c'est beaucoup plus dur sortir que de rentrer. Pourquoi? Parce que quand on vous met dans un endroit inconnu, vous allez forcément vous adapter à lui, vous n'avez pas le choix. Donc c'est là, on est obligé de s'adapter aux gens qui y sont, au local, etc. Par contre, on passe des années à désirer rencontrer un endroit qu'on a laissé avant de rentrer en prison. Donc on a laissé une ville, on a laissé une maison, on a laissé des enfants qui ont grandi pour beaucoup de femmes. On a laissé tout un environnement qu'on pense qu'on va retrouver quand on sort.
Intact.
Bon, évidemment, on n'est pas non plus si naïf pour pas savoir que ça a changé, évidemment. Mais le choc est brutal en sortant parce que, effectivement, entre le bruit, les distances qui sont déjà forcément plus grandes et étendues, les gens ont vieilli, les enfants ont grandi, les gens sont mariés, il y a des gens qui sont morts. Tout a changé. A changé aussi. Et ça, c'est le plus important, c'est que le regard qu'on a sur la vie est forcément transformé après avoir été enfermé. Ça, c'est quelque chose de on ne peut éviter avoir un autre œil sur le monde en sortant de cet endroit.
Et cet autre œil sur le monde, vous le posez parce que ça fait suite à vos réflexions, à vos créations. C'est, en fait, la prison, c'est un peu comme la deuxième face d'une pièce où le monde, soi-disant libre, est un des deux côtés. Et le monde enfermé en prison serait l'autre côté de cette pièce. Mais du coup, c'est pas la totalité de l'univers ni de la liberté, en fait.
Je vais ponctualiser ça, c'est très intéressant. Justement, si on est conscient aujourd'hui dans le monde des libres, dehors, qu'il y a beaucoup de prisons mentales, eh ben forcément, quand les gens sont enfermés physiquement, il y a des libertés. Moi, je dis, on enferme les corps. Je dis, faites attention, l'État, parce que vous enfermez les corps, mais les esprits se réveillent.
Et oui.
Les femmes, inconsciemment ou consciemment, évoluent en prison. Et elles s'en rendent compte.
Et justement, encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il me semblait que le plus difficile dans ce que j'ai lu, mais alors que j'ai lu les conditions terribles de vie dans les prisons, dans la prison là où vous étiez toutes les deux incarcérées, mais ce qui m'a marqué, c'est à quel point la difficulté semblait être à l'extérieur. Et j'ai une question, c'est comment, à l'extérieur, on arrive à se créer les conditions pour être libre? Comment vous
C'est très compliqué. Si tu veux, Moïse.
C'est très difficile d'exprimer, mais je pense que on revient à la même méthode qu'on a pratiqué dedans et qui a fonctionné de nous faire plus libres. Et dehors, par exemple, quand on sentait ce grand besoin d'exprimer, de partager notre expérience, de dire comment les choses étaient dedans, on a retourné au théâtre. Et c'est ça qu'on a fait dedans. Et je pense que les méthodes, c'est les mêmes, dedans ou dehors. Et ça touche le cœur et ça a à voir avec boire dedans.
Avec l'intériorité.
Nous écouter, et nous comprendre à nous-mêmes.
Parce que rencontrer la paix et la liberté en prison, c'est un travail 24 heures sur 24. D'observation, d'introspection, parce qu'on se rend bien compte à un moment quand on est enfermé et qu'on circule dans un endroit fermé, que quand on pourrait avoir réuni des conditions où on pourrait, entre guillemets, se sentir bien, il y a des moments où on va se sentir mal. Et donc on va être conscient qu'on est nous-mêmes à l'origine de cette paix et de cette liberté. Moi, je m'en suis rendu compte de ça à l'intérieur, je l'ai vécu. Je me suis senti libre à l'intérieur. Et donc, il y a eu des moments où je me suis aussi senti non libre. Donc, je suis retourné, j'ai dit, quel travail j'ai fait pour me sentir libre dedans. Et je fais ce même travail aujourd'hui dehors.
Zarina, vous avez peut-être aussi des clés sur ça.
Ce qui me touche beaucoup, quand Maïe dit, en fait, c'est la même méthode dehors et dedans. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas été en prison, ils n'ont pas travaillé comme moi dans les pays en guerre. Oui, je voulais dire que la guerre, c'est une prison. Mmh. Sarajevo, quand j'y étais, c'était une ville entière emprisonnée, quoi. Donc, c'est une énorme prison où on peut mourir à chaque instant, en plus, parce que les bombes viennent aussi d'en haut, pas seulement à l'intérieur des murs, quoi. Et ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire, c'est des tragédies, c'est des grandes tragédies qu'ont vécues Natacha, Maïe, Zarina. Et en fait, il y a la tragédie ordinaire. Il y a l'enfermement dans un couple où on est malheureux. Il y a l'enfermement d'une mère qui ne peut plus travailler parce qu'elle a eu trop d'enfants, alors qu'elle rêverait de pouvoir avoir un petit dehors de sa famille. Il y a l'enfermement de certains travaux qu'on n'a pas choisi de faire et qu'on fait en pensant que la sécurité financière est importante. Et on perd, et on perd, et on perd sa liberté, cette liberté intérieure. Et quelquefois, on ne sait pas comment sortir. Je pense aux femmes qui sont mariées de force. Il y a quand même la moitié du monde où il y a des mariages arrangés. Et un jour, je demandais à une femme turque, et vraiment, je pense beaucoup à la Turquie en ce moment aussi, mais comment on fait ? Comment on fait ? Elle me dit, on se fait violer pendant 40 ans. Voilà. Donc, alors que ça a l'air d'être un couple, ils sont mariés, mais c'est un enfermement absolument terrifiant, mais tous les jours.
Alors du coup, on a quand même énormément de degrés d'enfermement individuel et collectif. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être aussi enfermé dans une nation capitaliste industrielle. On a une limitation dans notre imaginaire, une limitation qui est imposée par l'extérieur dans nos façons de rêver. Et pour vous trois, et comme pour beaucoup d'autres, la création artistique, c'est un moyen de dissoudre les différents niveaux de prison. Et du coup, la création artistique, elle passe par un travail d'introspection.
Alors, Natacha, vous vouliez réagir ?
Je pense que dissoudre ne serait peut-être pas l'objectif approprié, puisqu'on finalement, on se rend compte que la partie obscure de nous-mêmes ou de ce qu'on peut regarder ne peut disparaître. On ne peut que l'embrasser.
Okay.
Non. Dissoudre l'obscurité, ça serait faire qu'il se soit tout blanc aussi, ce qui est impossible. C'est justement l'assimilation de ces deux existences qui fait qu'à un moment donné, on peut peut-être toucher une espèce de liberté. Non. Et je voudrais ajouter un petit détail sur des investigations qui ont été faites. Il est dit que pour ceux qui nous écoutent aussi, que les prisonniers sont dans le même état psychologique que les gens qui sont effectivement sous les bombes en permanence. Mmh. Et il est dit aussi que quand on est enfermé, en 5 ans, on revisite 20 ans de sa vie en prison. Donc en 10 ans, on revisite 40 ans de sa vie et en 15 ans, on revisite 65 ans de sa vie. Donc on revisite sa vie forcément et ça fait du ménage. Ça fait du ménage.
Et l'art fait du ménage aussi. Hein. L'art est un grand nettoyeur. Je veux dire, on dit que c'est une libération, mais avant de libérer, ça nettoie. Ça nettoie en profondeur, en fait, tous les déchets, tous les préjugés, toute cette éducation dans laquelle on nous a enfermés. Et l'art vient faire exploser tout ça pour toucher à l'essentiel. Parce que si on n'est pas dans l'essentiel, on n'est pas dans l'art. On est dans le divertissement, on est dans une culture plutôt d'évasion, c'est pas de l'art. Je voudrais rappeler ça, c'est qu'il y a théâtre et théâtre, il y a art et art. Alors quand on dit art pour certaines choses, moi je monte au créneau, je dis ça c'est pas de l'art, c'est du divertissement, ça a le droit d'exister évidemment.
Ce qui peut faire du bien aussi.
Bien sûr. Mais l'art, quand il est drôle, parce que dans la tragédie, il y a toujours une partie drôle où on rit, là, on atteint l'élévation de l'être humain. C'est cette élévation au-dessus des barrières, au-dessus des religions, au-dessus des politiques qui nous séparent. Je veux dire, c'est là qu'on s'élève et contrairement à Icare, nos ailes ne vont pas fondre parce que l'art ne fond pas. l'art demeure à travers les siècles. Et on peut embrasser, tu disais, embrasser la douleur. Moi, je dis, j'embrasse Socrate, 2500 ans après sa mort. J'embrasse Échille, c'est mes compagnons. J'embrasse Olivier de Serres en Ardèche, qui a 404 ans aujourd'hui. Je les embrasse, ils vivent avec nous grâce à l'écriture, grâce à l'art.
C'est une forme d'exercice de lucidité, l'art, voire presque d'extra-lucidité. C'est-à-dire, extra-lucide, on va ouvrir des portes de ce qui n'existe pas encore. On va au-delà, peut-être, voir des portes.
C'est ça.
De la même manière qu'il y a beaucoup d'enfermement, il y a beaucoup de liberté. Et quelques s'endort et quelques se réveillent. Dépendant de l'endroit où on est. En prison, on perd, par exemple, la liberté de marcher dans la rue, mais on gagne la liberté de se regarder et de se comprendre à soi-même. Et ça, c'est l'art, par exemple, c'est une des plus grandes libertés qu'on peut exercer à l'intérieur de la prison.
Merci. Oui, pardon, Natacha.
Nous, on utilisait le théâtre et l'art plastique aussi pour réagir à ce qui se passait. Parce que l'endroit est hostile, la société aussi est hostile. On a fait beaucoup de pièces de théâtre où on réagissait à la conjoncture locale, nationale, internationale. On réagissait à ce qui se passait parce que
à l'intérieur de la prison, bien vous sûr, réagissiez sur ce qui se passait dans
les attentats
société.
De Charlie Hebdo, sur la grippe aviaire qui est arrivée là. Et puis c'est un endroit sans censure, l'art.
Ouais.
On ne peut rien vous dire. Ce n'est pas la même chose que d'être devant des autorités pénitentiaires ou un gendarme dans la rue. Là, on ne pourrait pas lui dire ce qu'on pense, on ne pourrait pas exprimer ce qu'on pense réellement. Alors qu'à travers le théâtre, à travers l'écriture, à travers la peinture, le collage, on dit ce qu'on veut.
Et c'est possible ça, du coup, de tenir des discours. Je comprends pas bien comment. Enfin, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment se passaient un peu les séances de théâtre et les ateliers que vous avez menés à Santa Marta, parce que du coup, je me dis que créer du contenu artistique, c'est forcément subversif et que du coup, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre dans un endroit fermé. Est-ce que c'était du théâtre forum, des ateliers de participation autour d'un thème? Est-ce que vous avez écrit des pièces en commun? À quoi ça a ressemblé, le théâtre à Santa Marta?
Voilà, c'était un peu informel, parce que c'est une activité qui est masquée par l'autorité qui pense que c'est de l'art et ne met l'œil là.
Ah.
Et on est libre.
D'accord.
Et il fait de l'art.
On y regarde. Oh, d'accord. Pas mal.
On a présenté beaucoup d'œuvres à l'autorité, mais devant les autorités. Parce que c'est le théâtre, la partie culturelle fait partie de 1000 activités auxquelles on doit assister, participer, etc. Non, mais effectivement, on n'agressait pas non plus l'autorité, il faut être prudent. Il y en a qui le font, pas à travers le théâtre, et qui ont des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais si, parfois, par exemple, bon, entre autres, un petit exemple anecdotique, à 2 ans de partir, moi, je me visionnais déjà à l'extérieur, et ça me mettait le cœur en petits morceaux, laisser les femmes qui étaient dedans. Donc j'ai écrit un monologue qui s'appelait « Une canne derrière les barreaux ». Et j'imaginais une prison où, si les lois ne changent pas, bientôt les systèmes pénitentiaires et l'État seront avec des prisons replètes de vieilles dames qui ne sortiront jamais. Et je me moque du système. Et on l'a présenté aussi. On l'a présenté dans les autorités. Et effectivement, ils n'étaient pas très contents. Ils étaient plutôt incommodes. Mais bon, voilà, il faut le faire.
Je suis désolé, l'horloge tourne, on va pas tarder à conclure cet entretien, Sophie.
Oui, on rappelle donc ce spectacle dont on a finalement pas parlé, mais on a parlé un peu du contenu. On n'a pas parlé, mais finalement, on est un peu comme Zarina, puisque Zarina venait de nous dire juste avant l'émission que finalement, elle n'avait pas vu ce spectacle pour avoir cet œil... innocent,
oui.
Tout frais, de voir un petit peu ce spectacle qui sera, on le dit, pour la première fois joué en France. Vous l'avez joué au Mexique. Et pour la, pardon, pour la première fois joué en France.
Et pour la première fois en français, puisque Natacha a traduit la pièce écrite par Maillet en français. Donc c'est aussi un défi pour elles deux. Hein, mmh. C'est leur première en France et en français. Vendredi 17 février à 20h au Art Café avec un K de Mirabel 0770. Venez un quart d'heure avant, vous aurez l'occasion de boire un petit verre aussi. C'est dans les remparts d'une citadelle qui a commencé à se construire au 9e siècle. C'est une voûte magnifique. Et un spectateur m'a dit un jour, cette voûte-là, quand le spectacle est beau, elle s'ouvre et on voit les étoiles.
C'est beau, ça.
Eh bien, voyons les étoiles, toutes et tous ensemble, vendredi soir. Merci mille fois d'être venu ici. Merci, et ça me touche de vous voir.
Ouais, alors, un honneur de vous avoir accueilli ici.
Merci encore, c'est la fin de cette émission. Merci Sylvain.
Et voilà, ça conclut cette émission du mardi de l'Onde Curieuse. La suite du programme de la journée, n'oubliez pas, à 15h, le Telex. Vous pouvez toujours appeler et laisser vos messages au 04 75 93 30 25.
À 17h, une petite rediffusion de l'Onde Curieuse.
À 18h, découvrez un nouvel épisode de Polémix et la voix off.
À 20h, salut à toi.
Plein de nouveautés, et à 21h, Metal Zone. Merci à toutes et à tous, bon après-midi. On ne sera pas en onde jeudi puisqu'on sera en grève. Rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle onde curieuse.
Allez.